Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel, bonjour Natacha et bonjour, bonjour Joël.
Bonjour à toi. Mois de novembre 2023, dans un contexte de guerre qui se multiplie, nous tenons à soutenir tout d'abord les femmes dans le monde. Première victime avec les enfants des conflits armés et sous le joug des oppressions politiques. Mois de novembre, émaillé de célébrations et de journées internationales, toutes plus importantes les unes que les autres, fleurissent en ce moment sur nos abris de bus un QR code qui nous invite à mesurer si notre relation à l'autre est saine. Les violences sexistes, les atteintes au corps, nous en parlerons tout au cours de cette émission.
Et cette émission concerne en particulier la journée du 25 novembre, celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous aborderons cette question avec plusieurs regards, celui d'un psychologue spécialiste de la masculinité, celui de Françoise Vergès, politologue et militante décoloniale, mais aussi avec le témoignage d'acteurs de terrain, Marion Doyen et Jacques Demars du réseau VIF 01. Ils sont avec nous en studio. On vous donnera aussi quelques suggestions culturelles. Avant d'entamer ces échanges, il nous paraissait important de revenir sur ce que veut dire cette expression de « violence faites aux femmes ». Joël, tu as creusé et glané des infos là-dessus.
Bah oui, c'est l'ONU qui a choisi en 1999 de créer cette journée internationale. En 1993, déjà, une déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée par l'Assemblée générale de cette même ONU. Voilà la définition. Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Le contexte est posé, il est temps de creuser le sujet.
Vous écoutez Radio B.
Natacha, tu as pu échanger avec Adrien Brossard.
Oui, en effet. Alors Adrien Brossard est un psychologue auprès de la protection judiciaire de la jeunesse qui travaille particulièrement sur les questions de violence. Il anime un blog et un compte Instagram qui s'intitule « Comprendre la violence masculine ». Et on l'a contacté pour essayer de mieux comprendre les ressorts de la violence masculine et en particulier de la violence au sein du couple hétérosexuel. Dans les articles qu'il publie sur son blog, Adrien Brossard avance l'idée que les injonctions à la virilité sont au cœur de la violence masculine. Et il s'attache à décortiquer les effets psychologiques de la virilité, des normes de virilité sur les hommes. Pour le psychologue, ces normes de virilité, valorisation de la force et de la puissance d'un côté, et dévalorisation de la faiblesse et de la soumission de l'autre, s'incarnent parfaitement dans ce qu'il appelle la figure du guerrier héroïque, du super-héros, une sorte d'idéal type masculin auquel tous les hommes, dans leur parcours, dans leur parcours, sont exposés, notamment à travers le cinéma, la littérature, la télévision, les jeux vidéo. Adrien Brossard souligne les effets toxiques de ce modèle. Écoutons-le lors d'une interview qu'il a donnée devant des personnels de la PJJ, donc Protection judiciaire de la jeunesse, intervention intitulée « La virilité, un piège destructeur pour l'humanité ».
On pourrait dire que l'on demande aux hommes d'être des héros, au sens guerrier et héroïque, sauf qu'un héros a besoin de trouver des ennemis à dominer pour pouvoir prouver ça. Donc ils vont, voilà, si eux, leur conception du monde désigne tel groupe, tel individu comme des ennemis, ils vont avoir un intérêt identitaire en termes d'estime d'eux-mêmes à être dans cette posture de domination. Ensuite, le pendant de ça, donc c'est la dévalorisation de la faiblesse. Et ça, c'est extrêmement toxique également, et ça a donc des effets, déjà en termes de santé mentale, assez dramatiques, parce que l'expérience de la faiblesse, c'est quelque chose qui est inhérente à la condition du vivant, qui est omniprésente, et qui est déjà en fait particulièrement douloureuse et difficile à vivre. Donc si en plus la société, pour les hommes principalement, rajoute une couche de honte sociale à vivre cette expérience-là, ça la rend vraiment totalement intolérable. Ça fait que cette expérience devient... ils deviennent hypersensibles à ça, ils développent une intolérance, et donc ça fait comme s'ils devenaient, dans l'image, allergiques à quelque chose qui est en fait partout. Donc pour eux, ils vivent souvent la vie, principalement les relations humaines, de ce fait comme vraiment persécutant. Et souvent, ce qu'on retrouve dans le discours des hommes, c'est qu'ils... Donc, voilà, je dis ces hommes, évidemment, ces hommes-là, principalement ceux qui vont intérioriser ces injonctions, donc, ils vont avoir ces effets amplifiés en eux. Mais chez ces hommes, ils vont se sentir souvent persécutés est constamment frustré par des causes externes. Et en fait, ce vécu émotionnel est authentique, c'est ce qu'ils ressentent, parce que cette intolérance au fait d'être soumis crée chez eux une intolérance même à la frustration, parce que l'expérience de la frustration est une expérience de soumission face à une force externe. On a notre désir, on veut qu'il s'accomplisse, mais quelque chose d'extérieur vient nous empêcher ça, vient nous dominer d'une certaine manière, que ce soit une autre personne et son désir, que ce soit les forces de la nature, des forces économiques ou autres. Et donc les hommes qui vont particulièrement être sensibles, et leur seuil de sensibilité à ce vécu, de se sentir un peu dominé, va être très fort, vont dans chaque frustration, ils vont vivre ça de manière très douloureuse. Et ils vont avoir besoin donc de réinverser leur rapport de force et de pouvoir fuir ce vécu.
Dans ce schéma viriliste, il s'agit alors, nous explique Adrien Brossard, de prendre le contrôle sur l'autre, de dominer l'autre, pour se rassurer sur le fait que l'autre ne pourra plus frustrer mes désirs. Comment sortir de cet agencement mortifère alors ? Le psychologue insiste sur le rôle de l'industrie culturelle qui continue de rendre désirables des modèles d'hommes dominateurs et virils. Et il voit à l'inverse, dans la création d'un contre-modèle de masculinité plus positive, un espoir et un levier. Il s'agirait de construire ou de continuer de construire d'autres récits, d'autres fictions, donnant à voir des hommes non violents, des hommes investis dans le travail du care, du travail de porter attention à l'autre, des hommes entretenant un rapport plus sain à leurs émotions. Un chantier déjà ouvert évidemment, mais à consolider.
Merci Natacha. Alors d'après ce qu'on vient d'entendre, il est important de réfléchir aux constructions psychiques, mentales imposées aux hommes qui perpétueraient un cycle de violence. Mais on sait aussi que l'individu tout seul n'est pas le seul et unique responsable de ce qu'il fait agir. Nous agissons et interagissons toutes et tous dans un système lui aussi bien organisé depuis très longtemps. La politologue Françoise Vergès a produit un essai intitulé « Une théorie féministe de la violence ». Joëlle, tu as lu l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut en extraire?
Alors, les femmes seraient victimes, pacifistes, vertueuses, les hommes seraient machistes, violents. La solution serait de les mettre en prison. Ben certes, il y a une réalité dans ces avis qu'on entend tout le temps. Cependant, ce clivage ne me satisfaisait pas totalement. Et quant à la devanture d'une librairie, un jour j'ai vu un petit livre qui s'intitule justement « Une théorie féministe de la violence », écrit par Françoise Vergès, ben je l'ai acheté. Voici un passage de l'introduction. Le temps de le trouver. Voilà. Dans cet ouvrage, j'évite de considérer le patriarcat sous le prisme femme-victime-homme-bourreau, même si, parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui méritent incontestablement ce qualificatif. Je propose une critique du recours à la police, à la judiciarisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire du recours spontané au système pénal pour protéger les populations dites vulnérables. Mon analyse n'apporte pas de solution pour mettre fin aux violences sexuées et sexuelles dont la dénonciation montre aujourd'hui l'ampleur, mais souhaite contribuer à la réflexion de la violence comme élément structurant du patriarcat et du capitalisme, et non comme une spécificité masculine. Ce livre tente d'imaginer une société post-violence, non pas une société sans conflit et sans contradiction, mais une société qui ne naturalise pas la violence, qui ne la célèbre pas, qui n'en fait pas le thème central de son récit sur le pouvoir. Entre autres, comment expliquer la multiplication des mesures et des lois de protection des femmes, alors qu'augmente la précarisation et celle des classes populaires et des communautés racisées ? Pourquoi des féministes, dans un contexte de militarisation accélérée de l'espace public, souhaitent-elles donner un plus grand pouvoir à une police qui, par ailleurs, peut être raciste ? Comment expliquer la différenciation établie par l'État entre les enfants qui ont droit à une enfance protégée et ceux qui n'y ont pas droit, comme par exemple pour les enfants immigrés ? Qu'est-ce qu'une politique féministe décoloniale qui viserait à faire que la peur change de camp ? Voilà, ça c'est dans son introduction et c'est quelque chose qu'elle va développer tout au fur et à mesure. Alors après, Françoise Vergès, quelle a été et quels sont les déclencheurs de l'écriture de cet essai ? C'est en fait la question que je lui ai posée quand j'ai pu la voir au téléphone.
J'ai j'ai voulu revenir sur la notion de violence dans la théorie féministe pour un peu questionner peut-être une tendance punitive ou carcérale d'un certain féminisme, d'interroger la violence, de se demander si elle ne venait que des hommes pris comme un groupe qui ne connaît que la violence envers les femmes, ou si on pouvait, de nouveau, dans la lignée d'autres féministes, interroger aussi ce qui venait de la société et d'un système, d'une structure en elle-même extrêmement violente et brutale. Peut-être que je rajouterai aujourd'hui le fait que, en fait, finalement, il n'y a pas d'issue vraiment de l'État ou des gouvernements, enfin des institutions publiques données. C'est-à-dire que aux femmes, ce qui leur est proposé, c'est ou la protection par la police et d'envoyer la personne violente, l'homme violent ou la personne violente en prison. Il y a très peu de refuges pour les femmes, il y a très peu de structures qui les aident à trouver un travail, trouver un logement, trouver des écoles pour leurs enfants ou revivre entièrement, dans d'autres cadres, il y a très très peu d'accompagnement. Donc la question de la violence est de nouveau prise, si vous voulez, comme un seul moment. Alors là, on a une focalisation sur, voilà, cet homme a fait ça, donc il faut le punir, il faut l'envoyer en prison. Et finalement, qu'est-ce qui se passe pour cette femme, ou pour ces femmes en général, est beaucoup moins souligné. Avec cette focalisation sur le moment même de la violence et de ce qu'il faut punir et de ce qu'il faut donc mettre en lumière, et cette focalisation efface le fait que la société elle-même, la société dans laquelle nous vivons, par exemple en France, ne fait rien ou très peu de choses pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir un travail, pour qu'elles puissent avoir un logement, pour qu'elles puissent être autonomes. Et puis il y a cette autre question: pourquoi il y a tant de violence? Quelle est la forme? Comment dépasser cette masculinité violence? Comment on va contribuer à faire émerger des masculinités? Ou cela ne suffit pas que pour prouver que je suis un homme, je suis capable de violence. Voilà. Que je sois capable d'utiliser mes poings, que je sois capable de brutalité. Et là, je deviendrai un homme. On pourrait vraiment se poser d'autres questions. Vous voyez bien que vraiment tout soutient cette question de pouvoir, de corps militarisé, de corps où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui n'en ont pas envie en plus.
Alors après, Françoise Vergès continue, c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle dit. La structure de la société est basée sur le capitalisme, le salaire des femmes est moindre que celui des hommes. Il y a peu de logements sociaux, il y a peu de places dans les crèches, c'est un petit peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Beaucoup de femmes ont du mal à s'en sortir, à construire une vie autonome, sans se tourner vers des aides de l'État, qui les aident évidemment, mais aussi qui les lient à la fois. Donc qui empêchent leur autonomie. Malgré des progrès obtenus grâce à des bagarres qu'ont menées des associations, c'est un vide structurel qui existe. Ce régime en France, donc le régime actuel, n'est pas ouvert à ces sujets. Il traite la violence comme ponctuelle, mais après l'appuie sur le bouton d'avertissement. Après, qu'en est-il de la vie des femmes, de ces femmes de toutes les classes évidemment, mais particulièrement elles s'attachent aux femmes migrantes, aux femmes pauvres, aux femmes qui sont racisées. Qu'est-ce qui est fait pour qu'elle puisse réellement s'en sortir? C'est de ça dont il est question dans son livre. Nous retrouvons Françoise Vergès qui nous parle de ce qui pourrait faire évoluer et changer ces situations.
Puisque nous vivons, nous avons un État, une réelle prise en charge pour l'État. Une réelle, c'est-à-dire vraiment une profonde transformation. Que les femmes puissent avoir des logements qui sont... confortable, où elles puissent, je veux dire, c'est vraiment des politiques sociales, hein. Continuer évidemment à avoir des solutions pour l'urgence, ce dont vous parlez, c'est-à-dire qu'une femme, elle puisse fuir dans la nuit et trouver un endroit où elle puisse se réfugier. Mais au-delà de ça, il faut qu'on continue à se battre pour dire que cela ne suffit pas. Vous voyez, c'est-à-dire de s'asseoir autour d'une table, prendre plusieurs situations. On serait plusieurs. Je veux dire, les personnes qui s'en occupent, qui sont là, qui sont sur le terrain, comme on dit, puis d'autres, des juristes, d'autres, et dire, ben voilà, il y a telle situation, quels seraient les besoins de cette femme? Et alors, si on prenait cette situation, de cette femme migrante qui vit à la rue avec ses enfants, de quoi elle va avoir besoin, qu'est-ce qu'il va pouvoir vraiment, vraiment concret, l'aider, enfin vraiment, mais au sens positif du terme, pas au sens paternalitaire, à sortir. Et qu'est cette femme qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, parce que justement elle ne pouvait pas travailler, ou celle-là qui n'a pas de formation. Et tous ces problèmes, au fur et à mesure, si vous voulez, ne tomberaient pas dans une espèce de grande catégorie, les femmes victimes de violences, comme si la situation était la même pour toutes et que la réponse était la même pour toutes. Il y a une vraie question profonde. C'est quelque chose de plus vaste d'une éducation. Sur quoi repose la société? Sur quelle forme de violence? Sur quelle forme de... Et oui, sur vraiment de violence qui utilise essentiellement la répression, la punition. S'il y avait d'autres solutions, elles seraient d'accord. Elles n'ont pas nécessairement envie que tous les hommes aillent en prison. Mais il n'y a pas d'autre pour l'instant dans la société que nous. Il n'y a rien d'autre parce que justement elle est structurée par cette violence, par la répression et par des prisons surpeuplées où les hommes qu'on y envoie ne sont pas en train d'apprendre comment mener une vie paisible pour ne pas rester que dans l'urgence. Alors il faut absolument pousser les responsables, les politiques, l'État, enfin ceux qui donnent l'argent, quoi, oui. Ceux qui donnent des subventions. Oui. À multiplier des refuges, à multiplier des aides, absolument de les pousser à ça plutôt que de s'acheter des porte-avions, hein, plutôt que de financer des porte-avions, et de montrer que ça, c'est, je veux dire, qu'on a beaucoup plus besoin de ça pour là, justement, pour une vie paisible que d'un porte-avions. Vous voyez, par exemple, parce que il y a encore des, je veux dire, les porte-avions, ça coûte je ne sais combien de milliards, ça sert à rien. C'est quoi de vivre paisiblement? Vous voyez, c'est quoi? C'est comment vivre? Mais rien ne nous encourage, simplement en ce moment. Il y a des femmes qui dorment dehors la nuit avec leurs bébés, avec leurs enfants.
Voilà, et puis après, Françoise Vergès termine son ouvrage par un chapitre qui se nomme « Le féminisme décolonisé comme utopie ». Alors donc, je vais demander, mais comment y travailler?
Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ne le diraient pas dans les... avec le vocabulaire que nous utilisons, mais qui ont tout à fait une bonne compréhension de ce qui leur arrive, de pourquoi elles sont dans cette situation. Et après, évidemment, dans un travail de co-éducation, de mettre des mots. Parce que moi, dans les rencontres que je fais, puisque j'en fais quand même beaucoup, il y a « mais pourquoi c'est comme ça ?» Donc la compréhension que quelque chose ne va pas, elle est là. Elle est vraiment là. Quand on a une vie confortable, un peu aisée, ben, on devrait être capable de se dire, mais si j'étais privée de ça, ça ferait quoi dans ma vie? Si j'étais privée de frigidaire, si j'étais privée parce que je peux pas payer les factures d'électricité. Voilà. Je sais pas. Il faut qu'on redevienne un peu concrète. Pour moi, c'est ça les utopies émancipatrices. On pourrait, en fait, vraiment répondre positivement aux besoins quotidiens de la vie. Parce que ça ferait une transformation très plutôt que des longues discussions sur les valeurs de la République.
Françoise Vergès, politologue. Merci Joël.
Merci.
En studio, on accueille Jacques Demars et Marion Doyen du Réseau Vif. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le Réseau Vif, c'est 3 associations réunies. Le Secours Populaire que vous représentez, Jacques Demars, Save, dont vous faites partie, Marion Doyen, et Putain de Guerrière.
Tout d'abord, avez-vous des commentaires sur ce que vous venez d'entendre ?
On est plutôt d'accord avec ce qui a été dit tout le long là, des interventions entre le psychologue et la politologue. On voit bien qu'en tout cas sur le terrain, c'est exactement ça, quoi. Les femmes, elles sont... Enfin, la violence est prise en compte que sur l'instant présent, mais après, le travail qui est derrière, l'État ne met pas beaucoup d'argent derrière. Ouais. Et c'est compliqué. C'est ce qu'on voit tous les jours, en fait, notre quotidien.
Il y a un an, vous parliez des actions que vous menez sur le département de l'Ain. Et aussi de la prise en compte de la parole des femmes quand elles font le pas difficile de déposer plainte. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Aujourd'hui, au niveau des dépôts de plainte, c'est quand même beaucoup plus simple, une meilleure prise en charge. Ça reste encore des points à travailler, parce qu'on n'est pas encore à l'abri de certains officiers de police judiciaire qui sont encore un peu trop sexistes ou un peu trop... Enfin, qui ont des discours qui ne sont pas forcément adaptés à des femmes qui sont victimes de violences, qui peut être brutes pour eux. Mais on a un réel effort et un réel travail au niveau de la police et de la gendarmerie, en tout cas sur le département de l'Ain, et où on travaille énormément avec le commissariat et la gendarmerie de Bourg-en-Bresse, où ils font vraiment un travail énorme, où ils ont formé tous leurs officiers de police judiciaire. Ils prennent en compte en fait tout ce qu'on leur fait remonter comme remarques et à chaque fois ils réadaptent au niveau des équipes. Donc il y a un réel travail qui a été fait.
Et identique pour la gendarmerie, hein, puisque oui.
L'année dernière, on a pu assister à des distributions de tracts sur le marché. Moi-même, j'avais reçu un tract. Nous affirmant que des formations spécifiques étaient mises en place et qu'un demi-poste, de psychologue avait été affecté au commissariat de Bourg. Donc, vous nous confirmez que ça a bien été fait et qu'on voit les effets de cette politique.
Oui.
Et le demi-poste de psychologue, comment ça marche? Parce que demi-poste, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là tout le temps. Du coup, quand une femme va déposer plainte, concrètement, comment ça se passe? Parce que, ben voilà, on n'est pas forcément au courant de la procédure.
Il n'y a pas que les femmes, il y a les enfants aussi. Le psychologue qui est présente. Parce qu'ils ont justement, au niveau du commissariat, donc il y a quelques mois, créé une salle justement pour l'accueil des enfants. Donc les enfants sont effectivement filmés en présence d'une psychologue. Il y a une salle pour jouer avec des jouets, etc. Avant, parce qu'on a pu la visiter. Voilà, donc la psychologue est présente à ce moment-là.
Et vous dites filmer, pourquoi?
Pour les enfants. Pour les auditions d'enfants, c'est filmé.
D'accord. Ça sert à quoi, le fait de les filmer?
C'est pour éviter en fait qu'ils doivent répéter chaque fois leur histoire.
D'accord, ok.
Comme ça, ils l'ont dit une fois, après ils peuvent regarder.
Ils peuvent faire autre chose après. Voilà. Ils sont pas, on ne leur demande pas de revivre. Alors, à chaque fois.
C'est ça.
C'est ça, d'accord.
C'est avec le consentement, enfin, ils sont au courant. Hein, y a pas...
D'accord, non, bien sûr.
Vous évoquiez aussi la difficulté de trouver des lieux d'hébergement. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle observation pouvez-vous faire?
C'est toujours un problème actuel. En tout cas, nous, en tant que réseau Vive 01, on a fait un partenariat avec le SIAO, où du coup, on fait...
Alors, le SIAO...
Oui, pardon. Pour l'hébergement d'urgence. Et ça permet en fait d'avoir un lien privilégié avec les hôtels, les gîtes, qui peuvent du coup héberger des femmes en urgence. Donc on travaille avec eux et du coup, avec le réseau, on arrive à avoir 3 nuitées qui sont prises en charge, en tout cas par le réseau, et qui sont après prises en charge par le SIAO.
Et donc on est aussi intégré au niveau de la préfecture. Je laisse finir.
Oui. Donc en fait, on travaille justement, comme disait Françoise Verger, avec le département et toutes les associations et institutions qui prennent en charge les victimes, donc que ce soit la CAF, que ce soit les... la SEMCODA, Dynacité,
bailleurs sociaux.
Voilà, les bailleurs sociaux, la VEMA, toutes les institutions qui sont derrière, pour justement travailler à comment prendre en charge une victime, comment les aider au niveau de l'hébergement d'urgence, comment les aider à trouver aussi un logement plus durable. Voilà, on essaye de re-questionner tous les points qui sont les plus importants et quelles solutions on arrive à trouver tous ensemble.
Et justement, pendant l'écoute des interviews, je vous voyais parfois hocher la tête, sourire, vous regarder. Il y a des choses qui ont été dites justement sur l'hébergement. Est-ce que ça évolue? Est-ce que vous avez l'impression que là, vous avez été entendu depuis l'année dernière?
C'est toujours les femmes qu'on éloigne?
Oui, alors justement, ça fait partie de la grosse problématique, puisque le but recherché, c'est la prise en charge des hommes, on l'a entendu tout à l'heure. C'est la solution, parce que c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais mettre une personne en prison, c'est pas la solution, ça peut peut-être encore le rendre plus violent, si on le prend pas en charge. Donc aujourd'hui, on demande aux femmes de partir. Il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des femmes qui aimeraient rester chez elles, parce que c'est à peu près les pourcentages qui ressortent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution, on n'avance pas sur le sujet. Alors il y a déjà peu d'hébergements d'urgence, et le pire, c'est une double peine pour elle. Ça ne va pas permettre de résoudre le problème, puisque l'homme n'est pas pris en charge. Donc de toute façon, il va aller en prison, il va ressortir, il va de nouveau être violent. Et c'est vraiment la problématique, c'est la grosse problématique.
Merci. Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences conjugales. Pour les aider à se signaler, une solution d'alerte a été développée par une start-up de Montpellier. Il s'agit de Mon Shérif, un petit bouton qui peut se porter sur soi de façon invisible. Une application permet de rentrer les coordonnées de 5 personnes de l'entourage. En cas de danger, par simple pression, un SOS est envoyé par SMS, email et appel vocal, et permet la géolocalisation de la victime par les proches. Une alarme sonore et un enregistrement un lapsus, pouvant servir de preuve, peuvent aussi se déclencher. L'AVEMA a expérimenté ce dispositif et a souhaité le développer. L'association s'est portée acquéreuse des premiers boutons d'alerte et a fait appel à des donateurs pour financer d'autres appareils et permettre l'accompagnement de davantage de victimes. La ville de Bourg a répondu aussi présente en finançant l'achat d'un certain nombre de boutons Mon Shérif afin de participer à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mon Shérif, c'est un nom, c'est son nom. Ce n'est pas, à mon avis, un nom très adapté à la cause des femmes. On imagine un cow-boy, baraqué, armé jusqu'aux dents. Qu'en pensez-vous du nom et du matériel ?
Alors, je suis d'accord avec vous, le nom n'est peut-être pas forcément bien choisi. Après, au niveau du matériel, par contre, il est assez efficace. Les femmes sont plutôt rassurées d'avoir ce petit bouton qui est plutôt discret. Et du coup, c'est une aide précieuse, en tout cas, pour ces femmes.
Il y a des applications aussi, comme Appel.
Ça fonctionne, non ? Oui. Ouais.
Vous avez des exemples beaucoup,
c'est beaucoup efficace. Non, mais en tout cas, on a eu des femmes qui sont accompagnées et qui ont eu ce dispositif-là et qui fonctionne.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on va proposer ce bouton à quelqu'un plus qu'à quelqu'un d'autre ?
Alors, c'est déjà aussi à la demande de la personne, en fonction aussi de l'urgence, de si monsieur est toujours au domicile, si elle est menacée, pas menacée.
Après, ça nécessite un temps d'entretien, j'imagine, avec les personnes qui viennent vous rencontrer.
Alors, ce n'est pas nous qui décidons, en tout cas, mais c'est la VMA qui prend la décision de donner ou pas ce dispositif-là. Mais c'est par un entretien qui...
En fait, en préparant cette émission, nous, on s'est penché sur cette question. Donc, on a vu un peu tous les dispositifs, les outils et puis les mesures, les décisions qui sont prises pour les femmes victimes de violences. Ça nous paraissait toutefois pas assez, hein, puis c'est aussi ce qu'on entend au travers de votre témoignage et puis des interviews qu'on a pu faire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Et selon vous, qui êtes vraiment sur le terrain, présent, qui côtoyez ces femmes et leurs enfants, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse améliorer les choses et puis comment ?
Il y a plusieurs choses. Alors là, ça dépend si on parle de moyens ou simplement déjà d'écouter la parole des victimes, hein, des femmes, en majorité. Parce que bon, nous on accompagne, on a un peu les chiffres si vous voulez, 65% de femmes, on a 26% d'enfants et 9% d'hommes. Donc la violence, je vais reprendre le slogan de la pièce qu'on avait pris l'année dernière, le mot bleu, la violence n'est pas une question de genre mais une question de pouvoir. Parce que c'est, voilà, c'est ce qui est sorti un petit peu dans le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, c'est pas un témoignage, mais
l'interview de Françoise Verzès. Ouais.
Donc clairement, déjà, il faudrait que... C'est bien, aujourd'hui, on demande aux personnes de parler, on demande aux femmes de parler, c'est bien, mais si elles ne sont pas écoutées, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est vraiment le constat qu'on fait, on est un peu, on ne va pas dire en colère, parce que c'est de la violence, donc on ne va pas dire ça, mais on est... Moi, quand je vois, je vais reprendre aussi le clip que vous voyez aujourd'hui sur l'inceste. J'aimerais que les gens, quand ils voient ce clip, se disent... Ouais, c'est bien. Et après, il y a quoi derrière ? Nous, on vous répond, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc on fait aujourd'hui, on a le 25 novembre, on a le 8 mars. C'est deux belles journées. On a une policière qui se fait tuer devant une école. Donc pendant 3 jours, on en parle à la télé. Et puis derrière, rien. On laisse courir, mais il n'y a rien, aucun moyen. Donc s'il n'y a pas de moyen, on peut faire toutes les lois qu'on veut. On peut faire tous les beaux discours, tous les clips que l'on veut. Rien n'avance. C'est aujourd'hui le constat qu'on fait.
Dans les faits, dans votre idéal, dans votre utopie, comme le dit Françoise Vergès, il faudrait quoi pour que ça change, que ça bouge ?
Déjà, plus de moyens. Vous parliez effectivement, il y a certains outils. On parle des bracelets anti-rapprochement aussi. Donc, c'est un outil. Alors, dernière nouvelle, nous, il y en avait trois dans l'un, quoi. Oui, voilà. Donc, on a beau parler du Grenelle, c'est beau, on fait des jolies choses. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a 3 dans l'un. Enfin, peut-être un peu plus aujourd'hui, on n'a pas le dernier chiffre. Peut-être 4, j'en sais rien. Enfin, c'est marginal. En plus, c'est visiblement, techniquement compliqué à mettre en place, puisque par rapport au périmètre, enfin, voilà. Il faut savoir aussi, et là, je me demande comment le législateur a pu réfléchir à ça, penser comme ça, c'est avec l'autorisation, avec l'accord du mis en cause, enfin, de l'auteur. Donc ça paraît complètement démentiel. Enfin, on n'arrive pas à comprendre. Enfin, Marion, tu veux ?
Non, mais c'est tout à fait ça.
Et vous parliez justement de la prison et de cette place à donner ou pas aux hommes violents en prison. Typiquement, dans le discours qu'on entendrait, le public dirait, bah oui, si, il faut les mettre en prison. Ces gens, ils sont violents, ils ont fait du mal à leur compagne. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec cette assertion ? Expliquez-nous.
Tout simplement, si on ne prend pas l'homme en charge, on le met en prison. On a des exemples. On a des exemples de personnes qui ont des enfants, enfin, on a un exemple très précis, une personne qui a un enfant qui est violent, qui me dit, ben, pour l'instant, ça passe en prison parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il va en prison, il ressort, les mêmes personnes sont au courant, il n'est pas ressorti, qu'il recommence, parce qu'il n'est pas pris en charge. Ce n'est pas la solution, la prison. Alors oui, effectivement, il y a l'urgence, il y a des choses à faire, mais si on le met en prison, il faut aussi l'accompagner. Parce que si on ne soigne pas la cause, si on ne traite pas la cause, ben on se donne moins de conscience, on se dit c'est bon, ça y est. Et puis après on va dire, ah ben il a purgé sa peine, il est sorti, puis il va recommencer, parce qu'on n'aura pas travaillé sur la cause.
Et le travail se fait à un niveau psychologique.
C'est ça, oui, quand je travaille, oui, excusez-moi, oui, c'est tout l'accompagnement pris en charge. D'ailleurs, il y avait eu, puisqu'on avait participé à deux journées sur les violences faites aux femmes, qui est organisée par Secours Populaire, donc il y a 2 ans, c'était sur Nîmes, et il y a des expériences qui ont été mises en place, justement, peut-être un peu comme l'Espagne ou un peu le Canada, où il y a justement des établissements pour la prise en charge des auteurs, quoi. Et ça marche. Alors, il y a des échecs. Enfin, on va toujours trouver le cas qui ne va pas pour...
Pour améliorer.
Pour critiquer, oui.
Samedi 25 novembre, vous appelez avec d'autres associations, collectifs, dont le collectif féministe de Bourg, des organisations politiques aussi et syndicales, à manifester contre les violences faites aux femmes. Quel sera le mot d'ordre ?
Bah, c'est lutter contre les violences faites aux femmes.
Avec plus de moyens.
Avec plus de moyens, avec une prise en compte de la parole de la victime.
Et puis effectivement, vraiment plus de moyens. Et Moins de
classement sans suite.
Oui, alors le classement sans suite, c'est juste insupportable. Donc voilà, plus de moyens, plus d'écoute, et puis moins de blabla, quoi. Parce que c'est bien le blabla, mais ça ne fait pas avancer les choses, et ça, à part de se donner bonne conscience, encore une fois.
Marion Doyen, Jacques Demars, merci à vous.
Merci. Merci.
Bonsoir mesdames, messieurs. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'école polytechnique où un tireur fou a tué 14 personnes. 14 personnes tuées sont toutes des femmes. Toutes des femmes.
L'outil le plus parfait, c'est la femme. Achetez une femme.
C'est quelqu'un qui l'a décidé que les filles devaient faire la vaisselle ou c'est une loi?
Moi, à mon avis, ça a été décidé, c'est pas une loi.
Dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça plaît beaucoup, mais ça, c'est spécialement pour les filles.
Papa, il a dit qu'il était chef et maman, elle est d'accord.
1 cm dans le pénis, c'est 1 km dans la tête.
Si j'avais eu quelques centimètres de plus, ma vie aurait été différente.
J'ai le pouvoir, j'ai la grosse bagnole, j'ai le pognon, poussez-vous.
Il y a une attente de virilité, il faut de la force.
J'ai besoin d'un homme qui me domine légèrement.
On n'a plus le droit d'être un homme.
Le féminisme est un crime contre l'humanité.
J'ai appartenu à la génération de celles qui ont gagné la lutte pour le droit à l'avortement, gagné la lutte pour les droits au congé de maternité, gagné la lutte pour l'équité salariale.
On est loin d'être dans un principe d'égalité.
Les mamans, elles font toujours le ménage et à manger. Et les papas, regardent le journal.
Et dans notre rubrique culture, vous venez de l'entendre, une suggestion de film documentaire. Ça ressemble à un film d'action, hein. Natacha, c'est un film du réalisateur belge Patrick Jean.
Oui, alors ce film s'appelle « La domination masculine ». Il est sorti en 2009, alors c'est un petit peu ancien, il y a quelques années déjà. Mais c'est un film qui, à mon avis, reste d'une actualité importante, même si les propos peuvent paraître, là on l'a entendu dans la bande-annonce, hein, peut-être exagérés, caricaturaux, excessifs. En même temps, le film parle de choses qui continuent d'exister. Donc c'est un film franchement un peu dur. Qui laisse pas indemne, et il est construit comme une succession de tableaux, des stéréotypes, inégalités et oppressions sexistes qui montrent bien comment les violences s'inscrivent dans un système. On l'a entendu à travers les petits extraits diffusés. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans le film, c'est les extraits d'entretiens menés avec des membres de groupes masculinistes québécois que le réalisateur a infiltrés, ce qui sont particulièrement effrayants dans les prises de parole de ces hommes, hein, qui pensent, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, c'est cet homme qui dit que pour lui, le féminisme est un crime contre l'humanité. Donc, c'est glaçant. Et ça nous rappelle que la lutte pour l'égalité femmes-hommes est toujours d'actualité, ici comme ailleurs, toujours un combat à mener.
Et puis, tu nous suggères un peu de lecture.
Oui, alors, deux BD, deux bandes dessinées de l'autrice suédoise Liv Strömquist, qui écrit des bandes dessinées satiriques qui dénoncent les oppressions sexistes, le tout avec un humour assez décapant. Alors, pour décrire son travail, pour rendre ça un peu radiophonique, compatible avec, avec une diffusion radio, on peut décrire donc des dessins principalement en noir et blanc, très contrastés, assez simples, mais très percutants. Et puis, ce sont aussi des BD très denses, très documentées, où le texte est omniprésent, en haute case, on pourrait appeler ça note de bas de case aussi. On apprend en fait plein de choses en lisant Liv Strömquist. Ses textes et ses dessins se répondent de manière aussi très efficace pour mettre en évidence les inégalités, les injustices de manière, très, très, très percutante, je trouve, grâce à divers procédés de la satire, comme la mise en parallèle, les comparaisons, le paradoxe, l'usage de l'absurde, etc. Alors, j'ai amené là deux BD. Il y en a la première intitulée I'm Every Woman, est une bande dessinée qui parle de femmes, d'hommes célèbres maltraités par leurs conjoints. Et elle va s'ouvrir cette BD, ce livre, par un top 5 des, je cite, les pires petites amies de l'histoire, où on va découvrir par exemple que le peintre Edouard Munch était un partenaire au comportement particulièrement égoïste, particulièrement maltraitant et abusif avec ses compagnes. Ce qui va par exemple amener Liv Strömquist à imaginer que le cri... Alors voyez, le cri, c'est ce tableau d'Edouard Munch où on voit une personne, on voit un visage avec les traits déformés par la peur, l'angoisse, en train de crier, en train d'hurler. Et donc Liv Strömquist, l'autrice, imagine que ce tableau, le cri, est en fait l'expression du visage de son ex-petite amie qui vient de croiser Edouard Munch dans la ville et qui dit « Ah non, pas Munch !» Voilà. Donc vous voyez l'humour de Liv Strömquist. Plus loin, alors toujours dans la même BD, on va apprendre que Mao Zedong était particulièrement répugnant avec les femmes qui ont partagé sa vie. Il a eu 4 épouses successives, qu'il a toutes franchement malmenées, qu'il a trompé aussi allègrement avec des femmes toujours plus jeunes, et puis qu'il a fini par abandonner sans se soucier de leur sort. 2 d'entre elles, d'ailleurs, de mémoire, meurent prématurément parce que laissé un peu à l'abandon. Le réalisateur suédois aussi, Ingmar Bergman, fut aussi un compagnon odieux. Il a notamment fécondé à tour de bras ses compagnes et petites amies. Alors Liv Strömquist nous dit que toutes étaient des artistes ou des intellectuelles talentueuses qui se sont retrouvées du coup ainsi freinées dans leur carrière, dans leur projet, parce qu'évidemment lui, il ne s'occupait jamais des enfants. Il en a eu 9, je crois, de mémoire. Ce qui fait donc hurler Liv Strömquist, qui dit « Mais bonté divine, Ingmar, est-ce que tu pourrais arrêter d'engrosser chaque femme qui a des ambitions artistiques dans ce pays ?» Voilà, on retrouve aussi son humour. Et puis le palmarès d'hommes célèbres maltraitant leur conjointe continue avec on retrouve Karl Marx, on retrouve aussi Elvis Presley, King, le champion toute catégorie, parce qu'alors lui, il a été très très fort, il a fait vivre un véritable enfer à son épouse Priscilla Presley. Elle le rencontre alors qu'elle a à peu près 14 ans, ce qui est quand même relativement jeune, mais lui se dit pas que c'est un problème, hein. Il dit simplement que ce qu'il pourrait faire, c'est la réserver pour plus tard, donc il la met sous cloche en fait, et puis pendant 7 ans jusqu'à leur mariage, et pendant ce temps-là, elle doit s'occuper de devenir l'épouse idéale, hein, nous explique Liv Strömquist. Coupe de cheveux, maquillage, couleur de robe, tout est choisi par Elvis. Elle va vivre franchement recluse dans sa maison, sans avoir le droit de sortir. Et puis finalement, quelques années plus tard, elle finira par le quitter. Mais voilà, un bel exemple de manipulation et d'emprise. Il y aura d'ailleurs prochainement un film de Sofia Coppola qui s'appelle Priscilla, qui va sortir et qui donne à entendre à voir le parcours de Priscilla Presley.
Et puis une autre BD, Les Sentiments du Prince Charles.
Voilà, toujours de Liv Strömquist. Alors on va retrouver dans cette BD qui s'intéresse elle plutôt aux inégalités dans le couple hétérosexuel et à surtout en fait Pourquoi, c'est vraiment la question de départ, pourquoi des femmes acceptent-elles de passer leur vie à prendre soin d'hommes qui sont pas franchement attentionnés, pas franchement aimants, pas franchement reconnaissants, qui répondent pas du tout à leurs besoins à elles? Elle essaye de décortiquer ça, et là on va retrouver aussi un palmarès d'hommes célèbres au comportement peu glorieux, le chanteur Sting par exemple, le peintre Picasso, Karl Marx à nouveau, ou encore Albert Einstein qui aura fait toutes ses recherches en physique avec sa femme Mileva et qui va la quitter un peu cavalièrement pour sa cousine et ne la créditera jamais dans aucun de ses travaux. Voilà, donc des BD alors que je conseille vivement, qui sont des BD éclairantes, qui nous décryptent bien les mécanismes de la domination masculine dans la sphère privée la plus intime, mais aussi des BD franchement drôles, pas désespérantes ni désespérées. Les sentiments du prince Charles, par exemple, celle que je viens d'évoquer à l'instant, se termine par une adresse à l'attention des hommes, une invitation à abandonner privilège et pouvoir, car, comme nous le dit la féministe américaine Bell Hooks, citée par Liv Strömquist, là où il y a du pouvoir, il ne peut y avoir d'amour. Pour ressentir de l'amour, il faut abandonner tout pouvoir. N'ayez pas peur, conclut Liv Strömquist.
Et n'ayez pas peur également d'aller les écouter, ces hommes violents, dans une série de podcasts des Pieds sur Terre sur France Culture. Le journaliste Mathieu Palin a enregistré 12 hommes condamnés pour faits de violence sur leur conjointe. Il s'interroge tout au long de ces 6 épisodes sur le mouvement MeToo et la masculinité aujourd'hui. Un essai intitulé aussi « Nos pères, nos frères, nos amis » de ce même journaliste complète ces enregistrements. Une façon de repenser les choses. Le mec violent, en fait, c'est un mec normal, explique le journaliste. Ce livre est disponible d'ailleurs dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Merci à vous toutes et tous pour cette émission. Merci à Jimmy pour la réalisation et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une émission autour de la musique et du féminisme. À bientôt.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo. pilas que caiga con fuerza. El feminicida que caiga con fuerza. El feminicida.
Y retiemblen sus centros la tierra al soror.